les informations innocentes au Linga.
Bonjour à tous. Les titres du journal. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit encouragé par la préparation des élections en RDC. La délégation conduite à Kinshasa par les diplomates français auprès des Nations Unies, Jean-Marc de la Sablière, laisse par ailleurs aux Congolais la responsabilité des négociations réclamées par certains politiciens. Insécurité à Dungu, dans les districts du Haut-Touélé, en province orientale. Selon un religieux catholique de Dungu, des fardis s'est épinglé sur la liste des différents groupes armés tels que LRA et SPLA, tracassent la population dans cette contrée. Le déploiement de la 9e brigade intégrée freinée au nord du Nord Kivu, une décision des autorités militaires de la 8e région militaire. La société civile de Butembo et Lubero aurait influencé cette décision, mais la mesure susciterait déjà des mécontents au sein de cette brigade sortie du brassage à Rumangabo. Encore une fois bonjour, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit encouragé par la préparation des élections en RDC. Jean-Marc de la Sablière, ambassadeur permanent de la France auprès des Nations Unies et chef de la délégation, l'a dit hier, lundi au cours plutôt de la conférence de presse qu'il a tenue à l'issue de leur visite de 2 jours en RDC. Mais la journée, Jean-Marc de la Sablière avait reçu tous les 4 vice-présidents de la République, Jean-Pierre Bemba et Azarias Robérois notamment, lui ont dit leur soutien aux négociations, contrairement au vice-président Hirodia. Pour sa part, Jean-Marc de la Sablière souligne que cela relève de la responsabilité des Congolais eux-mêmes, pourvu que la date du 30 juillet fixée par la CI soit respectée. Jean-Marc de la Sablière au micro d'Ebrahim Munganga.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies ne doit pas rentrer dans le jeu politique congolais. Ce n'est pas son rôle et ne comptez pas sur moi pour que je rentre dans le jeu politique congolais. Nous avons, nous, constaté que la préparation technique des élections avait bien avancé et que la date du 30 juillet sera tenue. Si, dans le respect de cette date, on peut tenir des consultations, on ne peut que s'en réjouir, si cela peut apaiser la tension. Mais il ne faut pas que ce soit un prétexte pour retarder le scrutin. Vous savez, la volonté de voter qui a été manifestée par le peuple congolais doit être respectée.
Les gouvernements congolais satisfaits de l'annonce de l'envoi par l'Union européenne du premier contingent allemand, le 10 juillet, déclaration du porte-parole du gouvernement Harry Movasakani, le ministre allemand de la Défense, a confirmé hier le départ de ces contingents. C'est une bonne nouvelle pour la sécurisation des élections, affirme le porte-parole du gouvernement et ministre de l'Information, Harry Movasakani, au téléphone de Georges Kamoudjova.
Ce processus est un enjeu fondamental pour le Congo, mais plus pour l'Afrique, parce que la paix au Congo présage la paix dans toute la région de l'Afrique centrale, mais aussi de toute l'Afrique. Et donc, nous saluons vivement ce signal fort de la communauté internationale pour empêcher que des hommes de mauvaises intentions ne puissent pas perturber ce processus. Le perturbateur potentiel des aventuriers de mauvaises lois qui se risquerait les jours à venir à pouvoir perturber ce processus, n'importe qui des Congolais, qui, mécontent peut-être des résultats des élections, chercherait peut-être à obtenir par les armes ce qu'il n'aura pas eu par les urnes, celui-là aura une raclée des forces européennes, des forces de la MONUC, mais aussi des forces congolaises.
Vous suivrez l'intégralité de cette interview tout à l'heure à 8h20. Henri Mova sera l'invité du journal de Radio Capi. Toujours au sujet du processus électoral, les bulletins de vote sont arrivés dimanche à Bukungu, localité située à plus de 700 km au sud-est de Mbandaka. 21 cartons de bulletins de vote pour les élections présidentielles et 26 cartons de bulletins de vote pour les élections législatives ont été acheminés dans cette localité, la plus éloignée des chefs lieux de l'Équateur à partir de Kisangani par la MONUC, les bureaux de liaison de Bukungu, à la particularité de regrouper les territoires de Djoulou, d'Ikélé et de Bukungu, les entités les plus enclavées de la province de l'Équateur. Plusieurs milliers de personnes fuient la localité de Dungu dans les districts du Haut-Touélé. À la base, selon ses habitants, l'insécurité causée par les différents groupes armés qui opèrent sporadiquement dans cette région, notamment les rebelles soudanais de la SPLA et les Ougandais de la LRA. L'autorité locale reconnaît que les éléments des FARDC tracasseraient eux aussi la population. Dorcas Kanku.
L'abbé André Walia parle de 8000 personnes qui ont quitté la localité de Bangadi, soit les villages de Makusa, Bangui, Kana, Biangu, Limolo. Sans pointer du doigt le Mbororo, un peuple nomade, éleveur et armé. Les rebelles ougandais et les rats, les rebelles soudanais SPLA et même les FRDC déployés sur le lieu pour assurer l'intégrité territoriale. À Duru, à 25 km de la frontière avec le Soudan, La population vit dans les forêts avoisinantes pour échapper aux tracasseries des hommes armés. Elle sort timidement de sa cachette pour la messe du dimanche et quelques courses, nous a expliqué le chancelier de l'évêque du diocèse de Dungu, Abbé André Walia. Il revient d'une tournée pastorale dans la région. Le responsable intérimaire des FRDC dans les territoires de Dungu, le major Ayazayo, reconnaît que la population est victime de tracasseries qu'il attribue au groupement rebelle ougandais Elera et non à ses troupes. Le major Ayazayo avoue cependant que les différends ne manquent pas entre FRDC et population. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
Province orientale toujours, mécontentement d'une quarantaine de retournés congolais venus du Soudan. Ces Congolais, dont 24 femmes et 12 enfants, revendiquent des promesses que leur seraient faites par les hauts commissariats aux réfugiés avant de quitter le Soudan. Selon ces retournés, les ACR avaient promis des emplois, logements et d'autres activités d'autofinancement aussitôt arrivés au Congo. Mais à une semaine d'arrivée à Bounia, ces promesses ne se réalisent pas encore. De son côté, le bureau du ACR à Bounia rejette cette affirmation. Aliana Alipanagama pour les points.
Il y a plus de 40 ans que ces Congolais ont passé au Soudan en qualité de réfugiés. À leur arrivée à Bounia, l'ONG Oxfam Québec a assuré leur prise en logement et en vivres dans un site de transit. Pour les réfugiés, cette assistance n'est qu'une partie de l'aide promise. Hassan Koumou Akadeboni, père d'une grande famille, se plaint.
Mais on nous a dit qu'il est retourné au pays, on va vous construire la maison. Même si on n'a pas vous construire la maison, on va vous donner des terrains et des boulots. Même si je suis un travail, mais si j'ai mon parcelle, même aller cultiver le champ, je dis, c'est moi, je vais faire ça. Mais arrivé ici, quand on vous pose la question maintenant les madames qui se représentent maintenant, qui est HSR, on nous a dit que ces problèmes-là, ça ne les concerne pas. Si HSR n'a pas le problème de capacité, qui nous cherche, c'est maintenant de nous faire retourner. Là, nous habitons là-bas au Soudan.
De son côté, Irène Schmid, chef des bureaux du HCR Bounia, parle de promesses irréalistes. Toutefois, la même source affirme l'existence d'un projet de réinsertion sociale et d'assistance alimentaire pour 3 mois avec les concours des partenaires humanitaires au bénéfice des retournés. Aliana Alipanagama, Bounia, Radio Okapi.
Suspension du déploiement de la 9e brigade intégrée vers les grands nord du Nord Kivu. Elle a terminé la session des brassages depuis un mois à Rumangabo. Mais déjà, un mécontentement s'observe au sein de cette brigade où certains militaires croient que le gouvernement a cédé au chantage de la société civile des Lubero et Butembo. Celle-ci avait en effet organisé des marches la semaine dernière pour protester contre le déploiement de cette brigade dans leur milieu. Des Goma, correspondance de Gisèle Cage.
C'est le vendredi dernier que le mouvement de déploiement de la 9e brigade intégrée avait été stoppé net par la 8e région militaire. Des soldats qui faisaient déjà mouvement vers le Grand Nord, leur lieu d'affectation, ont été contraints de rebrousser chemin jusque dans le centre de brassage de Rumangabo, d'après des sources militaires de cette brigade. Selon les mêmes sources, c'est en pleine parade organisée le lendemain par le commandant région à Rumangabo qu'ils ont été informés que leur brigade ne pourra plus se déployer dans le Grand Nord. Elles soutiennent que ces décisions venaient de leur hiérarchie militaire à Kinshasa. Il y a plus d'une semaine, plusieurs manifestations avaient été initiées par la société civile du Grand Nord pour contester le déploiement programmé de la 9e brigade intégrée dans leur milieu. Les raisons avancées par la société civile de Lubero et Butembo étaient que plusieurs éléments de cette brigade avaient participé à des exactions à Rutshuru et Kanyabayonga, ce qui n'est pas l'avis de certains officiers de cette brigade qui croient à une main politique dans le refus de leur déploiement dans le Grand Nord.
Nous sommes déçus. Nous avons fait au moins 8 mois et demi dans le centre de brassage. Nous avons accepté cela parce que nous avons les soucis de notre pays. Aujourd'hui, les gens du Grand Nord viennent de nous contester. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Nous avons accepté de mourir pour ces pays, mais aujourd'hui, nous sommes dans la rue. Que la communauté internationale puisse voir comment la population veut politiser l'armée, puisque c'est elle qui soutient les processus.
En attendant, la 9e brigade intégrée qui a terminé sa session de brassage à Rumangabo il y a plus d'un mois vient d'être déployée provisoirement dans le territoire de Rutshuru. Gisèle Cage, Goma, Radio Okapi.
Situation préoccupante à la prison centrale de Kamina. Les prêtres franciscains de l'Église catholique viennent de mettre fin à leur assistance alimentaire et sanitaire aux prisonniers. La décision a été rendue publique le 1er juin dernier. Information confirmée par les commissaires du district de Kamina. Il indique par ailleurs que les prêtres franciscains ont suspendu leur assistance par manque de moyens financiers. M. Mbedi affirme qu'aujourd'hui, les prisonniers sont nourris grâce aux actions ponctuelles des populations ou des personnes de bonne volonté. Mbedi Yakite Mbeji, commissaire du district de Olomami, est joint au téléphone par Madeleine Waila.
Ils sont à peu près 246 prisonniers. Ils ne mangent pas, bêtement. Nous avons demandé à la fête s'ils peuvent attraper des sardines, des poissons salés, des poissons fumés. Ils peuvent rapporter ça directement à la prison. Les prisonniers venaient de m'appeler tantôt pour dire qu'ils ont réuni quelque chose et qu'ils pouvaient me rencontrer pour aller déposer. Et demain, je vais réunir toutes les couches socio-professionnelles de Tamina pour essayer de voir ce que nous pouvons réunir comme vivre afin de venir au secours à ces prisonniers qui sont en détresse. Le gouverneur est saisi par un message que je qualifie même de sonnette d'alarme pour que la province puisse voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut assister ces prisonniers.
Pour la petite histoire, c'est depuis 15 ans que la congrégation des prêtres franciscains assiste les prisonniers en nourriture et soins médicaux. Selon un prêtre qui a acquis l'anonymat, chaque trimestre, la congrégation déboursait près de 6 000 dollars américains. Notons que la prison de Kamina compte actuellement 200 détenus. Au sud Kivu, précisément à Uvira, avec les suivis sur l'incendie d'une embarcation en bois qui a fait plus de 70 morts, une personne a été arrêtée et trois autres comparaissent. Les personnes appréhendées sont notamment deux agents du service maritime et un autre du transport et communication du territoire d'Uvira. L'administrateur du territoire d'Uvira a ouvert les enquêtes depuis le week-end dernier pour répartir les responsabilités entre ces agents. Fiston Goma pour les détails.
La confusion règne au sein de l'administration du territoire d'Uvira sur celui à qui incomberait la responsabilité de cet incendie. Deux agents du service maritime se jettent la balle. L'un aurait autorisé le départ du bateau, tandis que l'autre aurait mal exécuté l'ordre donné par son chef. Mais selon le chef des ressorts de transport et communication, Piana Wamutelo, il y aurait violation du code de navigation qui interdit l'embarcation des produits inflammables avec des passagers. Sur 70 passagers qui ont péri, la liste officielle n'en reprenait que 57. La responsabilité, selon lui, incomberait à celui qui aurait autorisé les bateaux de prendre à son bord des passagers et des bidons d'essence. L'autorité en charge de l'administration d'Uvira a indiqué qu'un agent du service maritime est aux arrêts et qu'ensuite le commissaire maritime, chef direct de cet agent, devra être appréhendé puis traduit devant la justice. Ces enquêtes font suite à la demande de la vice-gouverneure du Sud Kivu lors de sa visite la semaine dernière. Rappelons que cette embarcation à moteur avait pris feu au large de Wimbi sur le lac Tanganyika la semaine dernière alors qu'elle s'est dirigée vers Kalemi en provenance d'Uvira. C'est Tango Mamayabala, Uvira Radio Kapi.
Arrestation de Maître Mukadi Boni, avocat du candidat à la présidentielle Oscar Kachala. L'ONG La Voix des Sans Voix dénonce la détention prolongée de cet avocat depuis le 8 juin dernier. Dans un communiqué publié hier, la VSV demande au président de la République, au vice-président chargé de la Défense et au SIAT d'ordonner sa libération pour décrisper le climat politique avant les élections. Célébration hier lundi de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. À cette occasion, le Bureau international catholique pour l'enfance à Kananga monte au créneau. Il a constaté un nombre croissant des enfants qui travaillent au Kasaï occidental. Cet organisme de défense des droits de l'enfant souligne que la plupart de ces enfants se retrouvent dans les zones minières. Pour l'instant, les organismes internationaux et locaux mènent encore des enquêtes pour connaître leurs effectifs et mettre en œuvre des stratégies de lutte. Sera-t-il facile de lutter contre le travail d'enfants? Alphonse Kalongi, coordonnateur du Bureau international catholique pour l'enfance, répond au micro de Marie-Chantal Lumba.
Oui et non. Oui, parce que on doit sensibiliser la communauté, faire les plaidoyers auprès des autorités politico-administratives pour qu'elles puissent sévir lorsqu'il y a des cas d'abus. Non, parce que c'est une situation générale. L'économie du pays étant ce qu'elle est, les enfants développent des stratégies de survie. Et parmi les stratégies de survie, il y a ce travail d'enfants, parce qu'il y a même des enfants qui sont envoyés par leurs propres parents pour aller faire du job et le soir ramener de l'argent, contribuer à la prise en charge des membres de famille. Je crois que c'est un travail assez complexe qui nécessite vraiment une synergie d'action entre les opérateurs de la société civile, des services publics. Il y a lieu de commencer, d'autant plus que dans la constitution actuelle, on a fait de la protection de l'enfant un devoir parental. Donc, il y a quelque part un axe sur lequel nous pouvons compter pour pouvoir commencer à traduire en justice des parents qui ne pourraient pas remplir leur devoir parental.
Toujours à ces sujets, notez en passant que la RDC, avec l'appui de ses divers partenaires, vient de créer un comité national de lutte contre le travail des enfants. Maurice Oyam, directeur du cabinet du ministre du Travail, l'a annoncé hier lundi à travers un arrêté ministériel. C'était au cours d'une matinée de sensibilisation organisée par le Bureau international du travail en RDC. D'après le directeur du cabinet du ministre, la loi prévoit des sanctions contre ceux qui veulent utiliser les enfants dans des travaux durs. En page internationale, 6 personnes ont été tuées hier lors des manifestations estudiantines contre la suspension d'examen en Guinée. Des milliers de manifestants ont notamment empli les rues de la capitale Conakry, brûlant des pneus, jetant des pierres et faisant obstruction au trafic pour protester contre la suspension par les gouvernements des examens en raison d'une grève générale qui dure depuis 5 jours dans ces pays. Le Nigeria a accepté hier lundi de retirer ses troupes dans un délai de 60 jours de la péninsule pétrolière de Bakassi au centre d'un différend avec le Cameroun, a annoncé le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan à Manassas près de New York. À l'issue d'une réunion avec les présidents camerounais Paul Biya et nigérien Olusegun Obasanjo, un délai supplémentaire de 30 jours pourrait être accordé au Nigeria si des problèmes survenaient au cours du retrait. Mais cette décision relèverait des Nations Unies, a ajouté M. Annan. Les deux pays voisins d'Afrique de l'Ouest se disputent depuis plus de 10 ans la péninsule stratégique de Bakassi, un marécage de 1000 km² potentiellement riche en pétrole sur la côte atlantique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-les sur notre site internet www.radiocapu.net, mais aussi en ondes courtes sur 11 690 kHz de 5h à 7h et de 17h à 19h de Kinshasa. Bonne suite des programmes sur Radio Capu.